le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, Radio Territoria, toujours en direct du salon de l'AMIF, de l'Association des maires d'Île-de-France, le rendez-vous des maires et des collectivités d'Île-de-France. Et nous allons parler d'un sujet qui est devenu absolument central pour les élus locaux et pour leurs habitants, la santé. Alors avant d'entrer dans le détail, on va parler de l'ARS, hein, de l'Agence Régionale de Santé, hein, c'est le bras armé de l'État en région pour organiser justement la politique de santé. Et j'ai le plaisir de recevoir Denis Robin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de l'ARS Île-de-France. Alors, avant toute chose, peut-être pour expliquer à nos auditeurs, quelles sont vos missions ? Vous intervenez donc sur l'accès aux soins, notamment sur la prévention, l'hôpital, la santé publique. C'est assez vaste, hein, la gestion aussi des crises sanitaires, le médico-social. Comment on peut résumer tout ça ?
L'ARS, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le bras armé de l'État. C'est un service de l'État dans chaque région française pour piloter de façon coordonnée tous les volets qui constituent une politique de santé. Ça commence par la prévention, comment éviter les maladies, les épidémies, s'en prémunir. Et puis quand on est malade, il y a l'offre de soins, d'abord la médecine de ville, puis l'hôpital. Et puis ensuite, il y a tout ce qu'on appelle le médico-social, c'est-à-dire la gestion de la situation des personnes vivant un handicap, la situation des personnes âgées. Il y a la gestion de crise sanitaire. Donc dès qu'il s'agit de santé, l'ARS se sent concernée.
Et qu'est-ce qu'on peut dire en 2026 ? Alors on va parler dans quelques instants d'un guide qui est sorti pour cette édition de l'AMIF 2026, du salon AMIF 2026. Juste avant d'en discuter, avant de parler des fiches pratiques, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur la santé publique en 2027 en France et particulièrement en Île-de-France ?
Ce qui frappe beaucoup tous les acteurs publics, c'est que lorsqu'on interroge nos concitoyens, et notamment les maires s'en sont bien rendus compte pendant la campagne municipale, la question de santé revient parmi les tout premiers sujets de préoccupation de nos concitoyens.
Mais logement et la santé, en fait.
Logement
et la
et
sécurité,
santé. Peut-être. Absolument. Et la sécurité, un peu moins qu'avant. Mais logement et santé revient en force. Pourquoi ? Ben, d'une part, parce qu'on voit bien qu'il y a un sentiment d'insécurité qui monte autour d'épidémies sanitaires, de la maladie qui est un problème de précarisation sociale très, très, très fort dans notre société. Et deuxièmement, le sentiment qu'ont les Français que le système de santé français, donc qui faisait notre fierté, a plutôt été affaibli ces dernières années par la crise sanitaire, par un certain nombre d'évolutions. Et nos concitoyens sont demandeurs de retour d'un fort service public de la santé dans notre pays.
Et quand vous dites nos citoyens, c'est tout le monde, hein, c'est hommes, femmes.
C'est tout le monde. C'est la question de la santé des jeunes qui nous préoccupe beaucoup, la santé des étudiants qui montre très très fort, la santé au travail, et puis bien sûr la question de la gestion du vieillissement de la population, notamment en Île-de-France. L'Île-de-France est une région qui s'est crue éternellement jeune, parce qu'on venait travailler en Île-de-France et puis ensuite on repartait vivre sa retraite dans sa région d'origine. Ça, c'est un schéma qui est vraiment terminé. Et donc, on est à la veille d'une explosion d'une population plus âgée en Île-de-France qu'il va falloir prendre en compte.
Eh oui. Bon, ça concerne toute la France, mais c'est vrai que ça concerne particulièrement l'Île-de-France. Et on pense aussi à la santé des soignants. J'ai vu que la santé des soignants n'était pas terrible.
Il y a la question de la santé des soignants. Ouais. Les soignants, ben, ça c'est un grand classique, ne songent pas à protéger leur propre santé.
Les cordonniers sont toujours les moins bien chaussés. Hein,
eh bien voilà, ça se confirme à l'hôpital. Voilà. Et puis il y a la question de la qualité de vie au travail des soignants. On se souvient qu'à la suite de la crise sanitaire Covid, on avait perdu beaucoup de soignants, notamment dans les hôpitaux publics. Et tout le sujet, c'est de les faire revenir à l'hôpital en améliorant les conditions de travail, les conditions de rémunération. Et ça, ce sont des politiques de moyen terme, mais absolument essentielles.
Alors, ce livret, donc accès aux soins santé publique médico-social, avec des fiches pratiques donc destinées aux élus locaux, destinées aux maires d'Île-de-France. C'est quoi le but de ce livret ? C'est accompagner en fait les élus locaux, c'est ça, dans leur politique, dans leur stratégie de santé publique ?
Oui, ce que l'on constate, c'est que la politique de santé est restée dans notre pays une politique de l'État. Il n'empêche que les maires sont les premiers maillons de cette politique. Parce que lorsque un habitant de la commune n'est pas satisfait ou a une inquiétude relative à sa santé ou à celle de ses proches, à qui il s'adresse ? Au maire. Et le maire est parfois très démuni pour pouvoir répondre aux sollicitations de ses électeurs, de ses concitoyens. Et donc nous avons rédigé ce guide à son attention pour dire « Monsieur le maire, voilà les thématiques sur lesquelles vous pouvez être interrogé, voilà les bonnes réponses, mais surtout, voilà les personnes qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous aider, et voilà les leviers dont on dispose ensemble pour régler des situations. » C'est un guide qui est très très pratique, qui a été relu par l'Association des maires d'Île-de-France, qui nous a dit « ça, c'est pas très clair, ça, on comprend pas, ça, c'est trop technique, là, il y a des termes, on sait pas ce que ça veut dire ». Donc, il a été réécrit avec des maires et avec des personnes qui travaillent avec les maires. Et donc, c'est un guide incroyablement concret, pratique, à destination des nouveaux élus.
Et c'est vrai que c'est très bien fait. On voit, il y a des schémas, alors ça, on va voir à l'écran, il y a des schémas assez sympas avec des chiffres qui marquent. 12,4 millions de personnes. C'est 20% de la population française, c'est les habitants d'Île-de-France.
Absolument. Hein.
Et c'est vrai que c'est des jeunes, 32% ont moins de 25 ans. Le taux de natalité, 1,20 pour 1000,
oui.
C'est ça.
Oui.
Oui, la natalité, ça baisse, hein. c'est pas terrible. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, justement, les élus locaux, bon, c'est quoi leur problématique quand ils viennent vous voir, au moment des échanges? C'est quoi le premier sujet en Île-de-France?
Déserts
médicaux, j'imagine.
Alors, il y a deux sujets qui se valent. Le premier sujet, c'est effectivement l'action de l'accès à l'offre de soins, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Alors, en Île-de-France, le terme désert médical, il n'est pas bien adapté, parce qu'il y a de l'offre partout en Île-de-France. Quant à moi, je travaillais auparavant en Provence-Alpes-Côte d'Azur, je peux vous dire ce que c'est qu'un désert médical en Haute-Provence, par exemple.
Alors, on m'a dit l'inverse. Il y a un maire qui m'a dit l'inverse dans une commune. Alors, c'était pas. Je crois que c'était en deuxième couronne, il m'a dit que c'était.
Oui, dans la grande couronne, c'est ce que je dis est moins vrai que dans la petite. Mais là où nous avons un problème, ce n'est pas tant un problème de désert médical qu'un problème de densité de l'offre. C'est-à-dire qu'on a de l'offre un peu partout, mais elle est insuffisamment calibrée pour la densité de la population qu'il y a. Et donc, on a encore une frange de population qui n'a pas de médecin traitant et qui a une difficulté à avoir accès à une offre de ville. Deuxième élément, nous avons une offre assez importante en spécialistes en Île-de-France, mais elle est toute en secteur 2. Ça veut dire que financièrement, on a une partie de la population qui a des difficultés à y accéder. Donc toute la question de l'offre de soins, pour un maire, c'est « j'ai le dernier médecin de ma commune qui va partir à la retraite, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire venir un nouveau médecin ?» Et là, on l'accompagne. Le deuxième sujet très important pour lequel les maires viennent nous voir, c'est tout ce qu'on appelle la prévention de la santé, notamment la santé environnement. Les maires qui ont envie de faire quelque chose dans leur commune, revégétaliser, prévenir les îlots de chaleur, prévenir les épidémies, traiter le moustique tigre, autant de mesures qui protègent la population, et on sent que c'est vraiment une thématique de plus en plus présente dans les politiques municipales.
Et peu importe, j'imagine, la localisation, peu importe la couleur, le parti, je pense que c'est partout pareil.
C'est partout pareil. Et puis surtout, on voit que ces problèmes, qui avant étaient très localisés, maintenant touchent tout le monde. On peut trouver du moustique-tique dans Paris. Voilà.
Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'en ai vu. J'étais pas sûre d'en avoir vu, mais j'en ai vu plusieurs fois. Vous confirmez.
Oui, absolument.
Il y a des moustiques-tiques dans Paris.
Dans
c'est des moustiques rayés, hein, c'est
oui,
ça
c'est
gris, rayés, oui, il y en a partout, on est d'accord.
Oui.
Et il faut avoir peur
Il faut jamais avoir peur, parce que c'est pas un bon réflexe. Et il faut traiter les choses sérieusement. Donc, il y a des tas de mesures de prévention qu'on peut avoir. Ne pas laisser de l'eau stagnante, parce que c'est là que les moustiques se reproduisent. Utiliser des produits agréé et pas n'importe quel insecticide qui peut avoir des effets pires sur la santé que le moustique tigre, et puis surtout bien identifier les nids pour les traiter. Voilà.
Parce que c'est quoi le risque d'un moustique tigre ?
Alors le moustique tigre en tant que tel, tout seul, il n'est pas dangereux, mais la difficulté c'est que le moustique tigre est le vecteur de maladies. Donc s'il rencontre quelqu'un qui est malade de la dengue, du chikungunya, il peut lui-même devenir vecteur et porter ce virus chez d'autres personnes.
Mais après, en Île-de-France, on est concerné par le chikungunya
On peut être concerné.
Et la dengue ?
On peut être concerné par des cas importés, c'est-à-dire que vous avez des voyageurs qui reviennent de pays tropicaux dans lesquels ces maladies sont présentes, et ils sont eux-mêmes porteurs. Et le vecteur moustique-tigre peut permettre la transmission de ces maladies.
Bon, après, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, dans la mais c'est pas. Vrai que c'est important d'en parler. Il y a ça, il y a les punaises de lit. Alors moi, j'ai parlé d'un sujet justement sur Sud Radio il y a quelques temps, parce qu'il y a un pesticide qui est utilisé, qui est interdit, qui s'appelle le sniper 100, oui. Je crois, oui. Qui est utilisé justement pour les punaises de lit, et c'est quelque chose de très dangereux. Il y a eu des gros problèmes, des morts d'ailleurs. Hein. Est-ce que c'est quelque chose, j'imagine, c'est un des sujets d'actualité?
Oui, c'est un sujet très général. Je crois que si on peut dire quelque chose d'utile à la population, c'est surtout n'achetez pas des produits qui ne sont pas agréés, labellisés et que vous trouvez dans les grandes surfaces sérieuses. Parce que ces produits, ils peuvent causer des dégâts considérables. Et s'ils sont interdits, ce n'est pas par hasard. Voilà. Oui. Alors on a le sentiment qu'ils sont d'une extrême efficacité. Et puis après, on découvre que les enfants à la maison sont victimes de troubles respiratoires ou cutanés. Et donc franchement, il faut éviter ça. Alors que pour toutes ces situations qui sont hyper anxiogènes, hein,
les punaises de lit, oui, c'est voilà. Compliqué à gérer.
Ah oui, absolument. Il existe aujourd'hui d'autres moyens par de la destruction mécanique, par l'aspiration, la chaleur. En tout cas, il y a des professionnels agréés, reconnus, qui ont les bonnes techniques.
Après, c'est vrai que parfois, ça peut être tentant. J'imagine c'est le coût hein, pour les personnes qui achètent ça. On trouve ça, j'ai vu, sur les marchés. On peut trouver ça sur les réseaux sociaux. Ça coûte pas cher, c'est accessible.
C'est le coût et la rapidité. Ouais, c'est-à-dire qu'on est tellement pressé de se débarrasser de ce fléau qu'on est prêt à s'en remettre à n'importe quel produit.
Bah oui.
Et ça, il faut lutter.
Et on va moins réfléchir peut-être aussi avec l'urgence de la situation. Un petit mot quand même sur, j'aimerais votre avis sur le logement des soignants. Parce que c'est un sujet. Qu'est-ce qu'on peut dire en Île-de-France? Parce que c'est vrai qu'on manque cruellement de logements, on est en pleine crise du logement. Les soignants en sont victimes. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain?
Oui, je vous confirme, en Île-de-France, c'est un sujet absolument majeur.
Ouais.
La question du coût du logement pour les personnels hospitaliers. On a rouvert, pour vous donner un exemple, l'assistance publique de Paris, qui avait perdu beaucoup d'infirmières, par exemple, et d'aides-soignantes à la sortie du Covid, a recruté sur 2 ans plus de 2000 professionnels. Et ce qui lui a permis de rouvrir 1000 lits. C'est comme si on avait créé à nouveau l'hôpital Bichat dans Paris. 1000 lits, c'est considérable. Et ça, on a pu le faire par une politique sociale très, très dynamique avec l'assistance publique de Paris pour faire revenir notamment les paramédicaux, comme on dit. Et la question du logement est dedans. Donc il y a des aides de l'État qui sont données aux centres hospitaliers, à commencer par l'assistance publique de Paris, mais aussi à d'autres établissements, pour réserver des logements auprès des bailleurs sociaux et pour qu'ils puissent être loués à des prix abordables par les professionnels. Et c'est une politique qui fonctionne très très bien.
Mais qui n'est pas encore assez répandue.
Je pense qu'il y a encore des besoins, essentiellement sur Paris et la Grande Couronne, ouais. pour tout dire. Mais c'est une politique qui montre très vite son efficacité.
Et les maires, par rapport à ça, j'imagine qu'ils vont dans ce sens également.
Les maires, ils sont très demandeurs. Et puis aussi les bailleurs sociaux, parce que finalement, d'avoir des logements réservés, donc avec des financements à la clé, pour des professionnels qui ont un niveau de rémunération qui leur permet d'assurer leurs charges, c'est une garantie de tout point de vue pour les bailleurs.
Un petit mot peut-être sur la vaccination avant de terminer. On a vu il y a parfois des recrudescences de maladies assez improbables. Je pense par exemple à je me suis fait vacciner enceinte en plus. La coqueluche, pardon.
Oui.
La coqueluche, il y a eu une épidémie en Île-de-France. C'était en 2024. Il y a eu des cas dans des écoles. Moi, je me suis fait, d'ailleurs, je raconte ma vie, je me suis fait vacciner enceinte parce qu'il y avait des cas dans l'école de mes enfants. C'est vrai que c'est assez fou de voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème de vaccination? Est-ce que tout le monde ne se vaccine pas? Pourquoi on pensait qu'on était protégé de la coqueluche?
Non, je pense qu'on a, dans notre pays, une part pas négligeable de la population a un vrai problème avec la vaccination qui n'est pas un réflexe naturel, et c'est bien dommage parce que ça nous permet quand même de protéger la population et surtout les enfants.
Je
donne un exemple. On a tous en tête les crises épouvantables qu'on avait aux urgences pédiatriques tous les hivers à cause de la maladie respiratoire.
La bronchiolite.
La bronchiolite et maladie respiratoire des enfants. Dès qu'on a eu, alors c'est pas officiellement, c'est pas un vaccin, mais enfin une injection pour immuniser les enfants, le Befortus, dès qu'on a pu le diffuser dans la population, en un an, on a réglé la question des urgences pédiatriques. Et voir un nouveau-né victime, enfin malade de la bronchiolite, je peux dire que personne n'a envie de vivre ça. Et ben voilà, la vaccination permet de le régler.
Et moi, je peux vous dire que mon bébé l'a attrapé. Il avait été vacciné et grâce à ça, il a fait une forme toute faible de bronchiolite. Donc, faut faire vacciner les enfants, c'est important. Et c'est vrai qu'un bébé malade, on n'a pas envie de voir ça. Donc, c'est important de rappeler, de faire vacciner, de se vacciner, de protéger. Et puis les personnes âgées aussi. La coqueluche, ça concerne aussi les personnes âgées.
C'est une façon de protéger les personnes. Et puis, on le dira jamais assez, c'est une façon de protéger tous les autres. Hein, parce qu'une personne contaminante, c'est toute une communauté qui est en danger.
Merci beaucoup, c'était important d'en parler. Merci beaucoup Denis Robin. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ARS et je remonte ce fascicule qui est pas que pour les maires au final, hein, pour les citoyens aussi, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant. Merci beaucoup et nous on se retrouve toute la journée, demain aussi en direct du Salon AMIF à la Porte de Versailles. À tout de suite.
Le Salon AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France en partenariat avec ACT Commodities sur Radio Immo et Radio Territoria.